Et on vous demandait de répondre à la question suivante. Lisez-vous, oui ou non, plus de 5 livres par an? Alors, ma chère Lise, nos auditeurs sont-ils des lecteurs avisés?
Eh bien, visiblement, tout à fait, Didier. On est à 71% de oui sur Instagram, 75% de oui sur Facebook et carrément 100% de oui sur Twitter. Donc, visiblement, on a des éditeurs qui lisent et j'avoue que ça me fait bien plaisir. On est en ligne avec Myriam Ilouz, qui est psychanalyste et elle-même grande lectrice. Bonjour, Myriam.
Bonjour, Lise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, est-ce que vous avez été surprise, Myriam, de constater que la majorité de nos auditeurs lisent plus que 5 livres par an, ce qui est considéré par le Centre National du Livre, notamment, comme de grands lecteurs?
Pas très étonnée. Je ne suis, ma foi, pas étonnée de constater que vos auditeurs sont des gens probablement lettrés. On a les auditeurs qu'on mérite, sûrement.
Alors, une étude qui avait été faite sur les habitudes de lecture avait noté une baisse de tous les indicateurs pendant le Covid avec évidemment la fermeture des librairies et visiblement 2023, c'est le retour à la normale dans de nombreux domaines, y compris celui-là, et 86% des Français, et là j'ai pas les statistiques sur les Belges, malheureusement, mais se déclarent effectivement revenus à leur niveau de lecture d'avant. Ouf, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez l'impression que les gens se remettent enfin du Covid, Myriam?
De façon générale, oui, il y a quelque chose du trauma qu'on est en train d'évacuer de façon collective et un retour à la normale qui commence à s'afficher. Pour revenir à votre question, celle du livre, je crois qu'il y a un nouveau monde et un monde d'avant. Vos auditeurs appartiennent au monde d'avant, comme vous et moi. Ceux qui sont attachés au livre comme étant le média privilégié de transmission de la pensée, de la critique, mais aussi du rêve, de l'imagination. Et aujourd'hui, je crains fort que la nouvelle génération n'ait supplanté le livre par l'image, ce qui est effectivement très problématique parce que l'image, elle, ne nécessite aucun effort, ne fait travailler aucun neurone, là où le livre vous mobilise de façon active, tant pour la compréhension de ce que vous lisez, pour la construction de ce qui est en mouvement, que de ce que vous allez nourrir de votre perception intime, de ce qu'un livre va bouleverser chez vous. Alors, eh bien, nos jeunes sont, je crois, beaucoup plus formatés par les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, par les images, toutes confondues, plus que par la lecture et le livre. Mais nous ne désespérons pas que les parents et les grands-parents parviennent tout de même à leur transmettre l'amour qu'ils ont pour les livres.
Oui, bien sûr. Alors Myriam, vous qui êtes une spécialiste du cerveau, j'ai lu il y a peu de temps qu'une étude très sérieuse de l'université de Yale révélait que les personnes qui lisent seulement 30 minutes par jour pouvaient augmenter leur espérance de vie et qu'il y avait de nombreux bienfaits de la lecture sur le cerveau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça marche, ce mécanisme?
Le cerveau est un muscle. Et si vous me posiez la question ou si vous vous posiez la question au sujet d'un muscle du corps, eh bien vous comprendriez très spontanément que plus on fait du sport, plus on entretient son corps, mieux on vit et mieux on vieillit. Alors de la même façon, le cerveau est un muscle que l'on entraîne. Et la plasticité cérébrale, les connexions neuronales sont autant d'éléments nécessaires à faire fonctionner et faire fonctionner de manière globale. Le cerveau ne s'allume pas de la même façon, si l'on peut dire, pour rester schématique, en fonction des activités qui sont pratiquées. Vous ne sollicitez pas votre cerveau de la même manière, Lise Benkemoun, quand vous écrivez un livre, et si vous me permettez, j'aimerais y revenir, que lorsque vous marchez. Eh bien, la lecture, elle, sollicite des zones du cerveau qui sont assez larges, voire même très étendues. Et la lecture est donc une activité qui entretient le cerveau et sa gymnastique de manière très efficiente et efficace, ce qui vous permet de mieux vieillir. Et je vais même aller un peu plus loin. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, après un âge assez jeune, les risques d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux, sont probants. Eh bien, on s'est rendu compte que plus on était lecteur, plus on faisait fonctionner la machine cérébrale, et bien souvent, mieux et plus vite, on récupérait d'un accident cérébral. Et il est bien évident que plus vous lirez, et mieux vous vous porterez. La lecture est sans aucun doute le sport privilégié du cerveau.
Alors, c'est vrai que plusieurs neuroscientifiques ont fait des tas d'études ces derniers temps pour montrer que la lecture des romans renforçait l'empathie, renforçait les compétences interpersonnelles, permettait de mieux ressentir, penser ce que font ou pensent les autres, mais aussi carrément que la lecture avait le pouvoir de lutter contre la dépression. 10 minutes de lecture pour diminuer le stress de plus de 60% selon un neuropsychologue de l'Université de Montréal. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez à vos patients, Nathalie, de faire 10 minutes par jour de lecture pour diminuer le stress ?
Alors, ça n'est pas un conseil que je donne à mes patients pour une raison simple, c'est qu'ils le vivraient sans doute comme une injonction et que ce serait compliqué. Par contre, bien évidemment, il peut m'arriver d'échanger au sujet de livres, libre à eux d'aller l'acquérir ou pas. Et vous voyez, il y a des livres qui sont bienveillants, qui sont ensoleillés et qui viennent mettre du vent dans les voiles. Et c'est le cas, Liz Ben-Kemoun, du livre que vous avez vous-même publié récemment au sujet des super-héros. Alors, là n'est pas le sujet, mais je dois quand même vous dire qu'il y a des livres qui sont des livres qui permettent à la fois de retrouver le sourire, l'espoir, la grâce, et des livres qui nous apprennent quelque chose quant au comportement du jour le jour. C'est ce qu'on va appeler des livres de coaching, des livres de pensée. C'est dans l'air du temps et ça fonctionne plutôt bien. Mais je crois aussi que nous avons tous et toutes été à un moment donné bouleversés par la lecture d'un livre qui a changé nos vies au moment où nous l'avons lu. Voilà.
Est-ce que je peux me permettre, pour conclure, Myriam, de vous demander de nous citer quelques livres qui ont justement changé votre vie ou en tout cas qui ont eu un très grand impact sur vous ?
Alors, moi, j'ai été bouleversée par la rencontre avec Albert Camus et tous les ouvrages de Camus ont été transformateurs dans ma perception du monde, de la vie, de quelque chose de cet absurde, mais aussi de cette humanité, de cette justice, de cet ancrage vers des valeurs humaines qui faisaient incroyablement écho à mon univers de naissance juif séfarade, mais aussi aux valeurs juives traditionnelles qui m'ont transmis l'humanité et les valeurs humaines que j'ai retrouvées chez Camus sous cette plume extraordinaire qui, quand j'étais adolescente, m'a fait rêver et me fait rêver encore, Liz Ben-Kemoun.
Merci beaucoup Myriam Ilouz d'avoir partagé ça avec nous. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et on peut suivre le séminaire que vous faites toutes les semaines, toujours Myriam, avec Gérard Haddad.
Oui, toutes les. Non, c'est une fois par mois.
Ah.
Et c'est un séminaire de psychanalyse, voilà. Et par ailleurs, je pratique la psychologie clinique.
Merci beaucoup. Une très bonne journée à vous, Myriam Ilouz.
Merci, Liz Ben-Kemoun.